Jean-Pierre Chevènement, La faute de Monsieur Monet, sous-titré La République et l'Europe. Donc, vous publiez ce livre chez Fayard, dans la collection à laquelle vous venez de faire allusion, qui s'appelle L'idée républicaine. Alors, première question, de quel livre s'agit-il? Nous sommes en pleine campagne présidentielle. Est-ce que c'est un livre de conviction qui date de bien avant la campagne qui est en train de s'ouvrir et d'avant le résultat du référendum le 29 mai 2005, vos convictions sur l'Europe? Est-ce que c'est un livre de campagne présidentielle parce qu'on sait que souvent les candidats à une élection présidentielle se doivent quasiment d'écrire un livre, ou est-ce que c'est un livre d'euphorie, peut-être, de la victoire, après la victoire du non dont vous étiez un chaud partisan le 29 mai 2005?
Alors, un livre de conviction, évidemment. Mais je dirais que c'est avant tout un livre de réflexion, un livre de recherche. Car je ne l'ai pas écrit dans la perspective de l'élection présidentielle. Ça tombe comme ça. Voilà, c'est tout. Mais je me suis toujours posé la question de savoir comment on avait pu en arriver là. Comment une telle irresponsabilité, comment une telle impuissance qui fait que, je dirais, nous avons accepté depuis 25 ans un chômage de masse quasi structurel. Nos hommes politiques n'ont plus barre sur le gouvernail, ils se sont défaits de toute leur responsabilité, et je dirais que pour moi c'est une source d'interrogation permanente depuis au moins le tournant de 1983, contre lequel j'avais été le seul à protester en quittant le gouvernement. Donc j'ai réfléchi sur l'Europe, j'ai vu comment elle se faisait de l'intérieur, je pense avoir à la fois cette expérience unique d'avoir été dans tous ces gouvernements, et en même temps d'avoir pu réfléchir à la question, et notamment à travers la lecture des mémoires de Jean Monnet, de Jacques Delors, de Robert Marjolin, de quelques autres qui ont été parmi les artisans de l'Europe, ou à travers la lecture des grands biographes de Jean Monnet, enfin le grand biographe de Jean Monnet, qui est Éric Roussel, qui a fait un livre important, près de 900 pages, mais fort bien documenté et très intéressant.
Alors justement, puisqu'il s'agit de Jean Monnet, Jean-Pierre Chevènement, selon vous, quel est le péché originel de la construction européenne?
Eh bien, d'abord je voudrais dire que Jean Monnet, c'est en fait le premier chapitre. Il y a quatre chapitres, mais la faute originelle, si je puis dire, c'est en effet cette idée que on peut reconstruire l'Europe, non pas seulement à travers un marché commun, dont je suis assez partisan, mais à travers la négation des souverainetés nationales et l'érection sur les décombres de la souveraineté nationale d'un pouvoir oligarchique confié à une haute autorité, à l'époque de la CECA, à une commission ou bien à un conseil des gouverneurs, à la Banque centrale. Et je montre par une étude historique poussée que cette idée s'enracine en fait dans l'éclipse de la souveraineté française après la défaite de 1940. À l'époque, Jean Monnet refuse de soutenir De Gaulle. Il est à Londres. Il y a un dîner de tête et il lui dit qu'en aucun cas, il n'accepte par exemple que Pétain puisse être traité de traître parce que son maître d'hôtel qui a servi à Verdun lui-même le sortirait à coups de pied dans le derrière. Enfin, je résume. Hein. Et Jean Monnet sera d'abord un haut fonctionnaire britannique pendant 2 ans, puis l'envoyé de Roosevelt en Afrique du Nord, où il a pour mission de ramener Giraud dans une orbite acceptable, parce que Giraud, il est tient ses pouvoirs du maréchal Pétain. Et Jean Monnet est évidemment frénétiquement anti-gaulliste. Il voit dans De Gaulle celui qui veut restaurer la souveraineté de la France, et il a cette idée que la souveraineté, c'est la nation, que la nation, c'est le nationalisme, que le nationalisme, c'est la guerre. Alors c'est une idée tout à fait fausse à mon avis, parce que la nation, c'est le cadre de la démocratie, de la solidarité. Le nationalisme, c'est une maladie.
Donc il a l'idée de la désuétude de la souveraineté nationale.
Alors c'est une vieille idée chez lui, puisque déjà, je dirais pendant la guerre 14-18, quand il était chargé des approvisionnements à Londres, il était très jeune homme, je raconte comment tout ça s'est fait, c'est une histoire prodigieuse. Jean Monnet est le plus grand homme d'influence qu'on ait jamais connu, en tout cas au XXe siècle, c'est celui qui joue le rôle le plus déterminant.
Vous remarquez qu'il n'a jamais connu le suffrage universel.
Non, parce qu'il a toujours préféré agir dans l'ombre, c'est un homme d'influence, il a vraiment su se mettre là où était le pouvoir. Et il a vu très bien que le pouvoir territoire au XXe siècle allait passer aux États-Unis. Et il propose en 1940 la fusion des souverainetés françaises et anglaises quand la France est défaite. Parce que, au fond, il n'y croit plus. Il sait que ce qui compte, c'est la puissance des États-Unis qu'il faut mobiliser. Il s'y rend, donc, à la tête de la mission anglaise d'approvisionnement de 1940 à 1942. Et c'est à partir de 1943 qu'il est à Alger, où il va jouer la carte Giraud. Il écrit à Roosevelt, de Gaulle, il faut le détruire. Car de Gaulle, c'est Hitler. Son discours, c'est un discours qui nous ramène à l'Europe que, au fond, Louis Jean Monnet haïssait, l'Europe des souverainetés nationales. Alors je trouve que il faut comprendre tout ça, parce que si on ne comprend pas dans quelle mouvance intellectuelle, idéologique, politique s'inscrit l'idée de la construction européenne telle que elle a été pensée par Jean Monnet et quelques-uns de ses collaborateurs dès 1943, parce que c'est dès 1943 qu'il a cette idée du marché commun, du charbon et de l'acier, de la haute autorité, on ne comprend pas comment ensuite l'Europe évolue vers ce système oligarchique.
Donc voilà, double péché originel, selon vous, on oublie l'idée d'État-nation, la souveraineté nationale devient une idée dangereuse, et par ailleurs, on s'éloigne de la politique et de l'idée de représentation politique en créant en fait de l'expertise, c'est-à-dire des gens qui sont des experts, c'est ce que vous appelez, Jean-Pierre Chevènement, une oligarchie.
Mais despotisme éclairé.
Du despotisme éclairé, vous dites.
On l'a souvent dit à propos de la méthode dite des petits pas, des faits accomplis, qui peu à peu nous a conduit de la CECA, du marché commun du charbon et de l'acier, vers le marché commun, du marché commun à travers la Commission, vers un pouvoir juridique qui l'emportait sur le droit des nations, puis ensuite le système monétaire européen, la monnaie unique, la banque centrale, et puis une union politique qu'on n'a jamais pu faire naître, parce qu'on ne peut pas passer du marché à la politique. Et une des critiques que je fais à Jean Monnet, c'est son économisme, son refus de l'histoire, son absence de culture historique, pour tout dire. Quant à la critique que je fais, répudiation des nations et répudiation de la démocratie, c'est la même en fait, hein. Il n'y a pas une double critique, parce que la nation, c'est le cadre de la démocratie. La démocratie vit dans la nation. Et quand on veut construire quelque chose au-delà des nations, comme a essayé par exemple de le théoriser le philosophe allemand Jürgen Habermas, on crée quelque chose qu'on appelle le post-national, c'est-à-dire le lieu de rencontre où un certain nombre de gens, parce qu'ils adhèrent non plus à une nation, mais à des principes de droit, de justice, mais déconnectés des nations, peuvent se retrouver. Seulement ceux qui peuvent se retrouver sont un très petit nombre. Et ce pouvoir très élitiste, en réalité, dissimule très vite ce qui finit par advenir, c'est-à-dire la décision en dernier ressort, le monopole de la décision en dernier ressort par les maîtres du capital. Et par conséquent, je critique cette théorie du post-national au nom de la nation républicaine et de la convergence des nations républicaines et de ce que d'autres auraient appelé le plan B, parce que le quatrième chapitre de mon livre, c'est au fond le plan B, c'est comment peut-on réorienter l'Europe comme les Français le souhaitent, puisque 55% d'entre eux, je vous le rappelle, le 29 mai 2005, ont dit non à une Europe qui ne les protégeait pas, à une Europe qui avait dérivé très loin de l'objectif initial.
Arnaud Vivien.
J'ai pensé, moi, à un autre juriste et philosophe allemand, à Carl Schmitt, en lisant ce que vous racontez de Jean Monnet, dont je ne savais absolument rien, lorsque vous racontez par exemple qu'il a vendu de l'alcool aux trappeurs canadiens, il a commencé comme ça, c'est quand même un aventurier, c'est un voyageur aussi, Jean Monnet, sans doute il parlait très très bien anglais, ça a beaucoup favorisé son rapprochement vers les États-Unis. Et Carl Schmitt disait que les gros problèmes de l'humanité venaient du fait qu'il y avait d'un côté les voyageurs et de l'autre côté les sédentaires. Les voyageurs évidemment ce sont les commerçants. Est-ce que c'est pas justement parce que Jean Monnet était un aventurier, un commerçant, quelqu'un voué au voyage et au commerce et au marché, que l'Europe s'est construite ainsi. Finalement, est-ce que la biographie de Jean Monnet n'explique pas cette orientation de l'Europe aujourd'hui vers l'économie strictement et non pas vers la culture ?
Je ne vois pas le monde comme ça. Je pense que le commerce est nécessaire. Jean Monnet n'a pas vendu du cognac, il représentait la maison de son père. à Cognac, dans les Charentes. Il n'a pas vendu de l'alcool directement aux Indiens, c'était interdit. Il a vendu de l'alcool à la Hudson Bay Company. C'est là qu'il a noué ses premières relations, lui ont été très utiles par la suite, parce que la Hudson Bay Company était une petite multinationale de l'époque, et il a loué sa flotte à la France pendant la guerre 14-18. Donc il a rendu service, Jean Monnet, à ce moment-là, mais ça lui a donné un certain crédit. Non, je pense que Jean Monnet s'est trouvé en contact avec les milieux dirigeants non seulement français, il était l'homme de Clémentel, ministre du Commerce à Londres dès 1915, mais il était très lié aux élites anglo-saxonnes, britanniques d'abord, puis américaines, et au fond, comme il était un homme de pouvoir, bien qu'il n'étant jamais passé devant le suffrage universel, il se rapprochait des centres de pouvoir. Donc il a très bien vu comment marchait la machine. C'est un homme très remarquable. Il avait beaucoup d'intuition. Et il a accompagné ce que j'appelle le transfert de l'hégémonie d'une rive à l'autre de l'Atlantique. C'est-à-dire que l'hégémonie, c'était l'Europe avant 1914. Et Jean Monnet a très vite compris que finalement rien n'allait pouvoir se jouer de manière décisive sans l'intervention des États-Unis. Et il le comprend dès 1917, et puis plus encore pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il va jouer le jeu américain. Je dirais même que quand il est commissaire au plan à la libération, il jouera un rôle très important et très utile dans la reconstruction de la France. Il le fait aussi parce qu'il bénéficie de l'aide américaine et qu'il sait ce que veulent les Américains. C'est reconstruire une Europe dans laquelle on va réintégrer l'Allemagne, parce qu'il faut faire face à l'Union soviétique. C'est les débuts de la guerre froide. Donc Jean Monnet est en même temps un formidable géopoliticien. Mais il se place du côté du manche, si je puis dire. Son souci, ce n'est pas de reconstruire la souveraineté française, de reconstruire la France aussi, et puis française, c'est de reconstruire ce qu'il appelle le monde libre. Parce qu'il raisonne déjà comme ça, et la seule nation qui trouve grâce à ses yeux, finalement, c'est l'Amérique, parce qu'elle est une nation à la dimension d'un continent. Alors que pour lui, les nations européennes, c'est des toutes petites nations, ça ne tient pas la route. Hein, il faut les effacer.
Arnaud. Mais on lui prête cette réflexion où il aurait dit, si c'était à refaire, je commencerais par la culture, et vous dites que cette réflexion est fausse, et qu'elle est apocryphe.
Elle est apocryphe, oui. D'abord parce que Jean Monnet n'a pas une culture immense, je n'en fais pas la critique. Il n'a même pas passé la deuxième partie de son baccalauréat. Mais il y a beaucoup de gens très brillants qui ont quand même réussi sans avoir passé leur baccalauréat. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il n'a aucune culture historique. C'est un homme qui se forge sur le tas. Et un de ses amis le décrit comme un véritable Américain. Il est plein pied avec ses interlocuteurs. Il raisonne marché. Pour lui, ce qui compte, c'est l'argent. Il fera d'ailleurs carrière dans la banque américaine après avoir été secrétaire général adjoint de la Société des Nations dans les années 30. Il sera à la tête d'une banque américaine qui fera faillite, d'ailleurs. Mais c'est un banquier, c'est un homme qui sait ce que sont les flux financiers, qui a l'habitude de traiter, d'ailleurs, avec les gens qui font la décision, les gouverneurs de banque centrale, dès cette époque-là. Hein. Et par la suite, il aura une vue géopolitique du monde qui manque à la plupart des autres hommes politiques. Il ne trouvera en face de lui qu'un seul homme politique, c'est De Gaulle. Peut dire de Monnet qu'il est à bien des égards l'anti-De Gaulle.
Sandra Freeman.
Alors, on parle beaucoup de ce monsieur Monnet, mais comme vous le disiez vous-même, on arrive au chapitre 4 de votre livre, et là, on parle plus de vous, finalement. Et vous voulez travailler à construire une Europe républicaine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion d'Europe républicaine que vous développez?
Alors, pour bien comprendre cela, il faut lire le chapitre 3.
Oh là qui là est,
ah ben oui, hein, Sandra, quand
on
même.
Peut pas sauter comme ça.
Ah
où j'explique qu'il y a quand même, historiquement, deux conceptions de la nation. Il y a la conception française, découlant de Rousseau, c'est le contrat social, c'est au fond une certaine table rase qui est faite par rapport au passé, bien que Rousseau soit plus nuancé. On voit dans ses textes qu'il dit qu'il faut quand même adapter les constitutions aux peuples pour lesquels elles sont faites. Mais quand même, il y a la conception française de la nation, une conception égalitaire, communauté de citoyens, donc délivrée de la mythologie des origines, puis il y a la conception allemande qui fleurit à la même époque, celle de Herder, qui dit que bon, le peuple, il est toujours original, il s'enracine dans les millénaires, il se définit par la souche, et quelquefois même il est supérieur aux autres, c'est le cas du peuple allemand, et on va voir de
vous Werner. Vous remarquez affiche. D'ailleurs que l'Allemagne a mis très longtemps à substituer le droit du sol français au droit du sang qui était en vigueur avant.
Je le remarque parce que j'y
99,
étais,
je crois.
J'étais très ami du ministre allemand de l'Intérieur, Otto Schily, qui a fait cette réforme, et nous avons beaucoup discuté avant pour savoir comment on allait aller vers un vrai droit du sol et non pas vers quelque chose qui aurait juxtaposé les Allemands d'origine allemande et les Allemands qui auraient un passeport allemand mais qui seraient par exemple d'origine turque ou yougoslave. Donc pour moi c'est très présent à mon esprit. Je trouve que l'Allemagne a fait une évolution quand même remarquable en changeant son droit de la nationalité, en troquant le droit du sang contre le droit du sol, enfin qui était le droit du sol est devenu le droit allemand, comme d'ailleurs le droit anglais, le droit français, le droit des.
En France, ça n'a pas été sans mal. Le droit du sol a été remis en question.
C'était pourtant une vieille tradition, je dirais, venue de nos rois. Hein, mais je dirais que c'est quand même la tradition républicaine la plus pure, même si elle a subi des atteintes, notamment à l'époque où M. Pasqua était ministre de l'Intérieur.
Bon, Jean-Pierre Chevènement, vous allez m'en vouloir, mais il nous reste une minute. Alors, cette République européenne que vous appelez de vos voeux, quel pourrait être son ferment? Parce qu'on voit bien que tout le monde est sorti groggy, les ouïistes comme les nonistes d'ailleurs.
Non, ce n'est pas mon cas.
Vous n'êtes pas sorti groggy du 29 mai 2005.
Pas du tout, c'est une...
Disons-le autrement, on constate que dans la campagne présidentielle qui s'amorce, le thème européen est curieusement absent.
Mais
on en parle
fort
peu.
Vous verrez qu'il va revenir. Hein, et si on l'oubliait, eh bien d'autres se chargeraient de rafraîchir la mémoire de ceux qui nous gouvernent et qui font comme s'il ne s'était rien passé
le 29 mai
2005. Il s'est passé quelque chose. Le peuple français a demandé la réorientation de la construction européenne. La République européenne, c'est le concert des nations républicaines partageant les mêmes valeurs universaliste et capable de s'entendre sur des projets. C'est pourquoi faire l'Europe, hein, en matière économique, comment faire reculer le chômage, comment réformer les statuts de la Banque centrale, et en matière de diplomatie, comment peser sur les États-Unis, comment éviter la guerre des civilisations.
Mais là, il va falloir revenir sur des choses, et vous le dites dans votre livre, par exemple, le mouvement des capitaux qui vient de l'acte unique, la libéralisation des mouvements de capitaux.
Ouais, qui a été la grande catastrophe, parce qu'il a effectivement...
Ça va être coton de revenir là-dessus, monsieur le ministre.
Ah, ça va être très difficile, oui, ça va être très difficile, mais pourtant, il faut revenir là-dessus. Il n'y a pas de traité qui ne soit, d'une certaine manière, renégociable. Alors, dans une certaine mesure, peut-être avec d'autres, peut-être une simple taxation des mouvements de capitaux, comme l'avait proposé Tobin à un moment. Mais je pense que cette libération des capitaux, y compris vis-à-vis de l'extérieur, pour l'Europe, est suicidaire, parce que je vous rappelle que une grande partie de l'épargne française se place à l'étranger.
Merci beaucoup. Jean-Pierre Chevènement, La faute de Monsieur Monnet, c'est publié dans la collection L'idée républicaine chez Fayard.